Alors, je ne sais pas si cette musique que vous entendez actuellement hein, vous évoque un univers du travail. Alors, peut-être à définir lequel. Et en tout cas, est-ce que ça vous inspire soit des rêves, soit des craintes, soit des aspirations, peut-être, si vous commencez à travailler ou si vous cherchez du travail. Tout est possible. Ça va être aujourd'hui les 30 ans des Archives du Monde du Travail que nous allons présenter avec Rémi Six, qui est chargé de la valorisation donc, de cet événement. Bonjour Rémi Six.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, on peut peut-être rappeler quand a été créé ce centre hein, qui est donc à Roubaix, dans l'ancienne filature de coton mode bossu, et quel est au départ la vie qui y régnait du temps où elle fonctionnait en tant que filature, et maintenant quel est son destin, quel est son projet?
Bien sûr, on peut commencer par parler un petit peu de l'histoire. Donc, ce centre d'archives, les Archives nationales du monde du travail, sont implantés depuis 1993 au cœur de Roubaix, comme l'avait très bien dit, dans l'ancienne filature de coton mode bossu. Donc, qu'est-ce qu'une filature? C'est un établissement dans lequel on transforme la matière première, le coton, en fil. Voilà, c'était l'objectif de cette filature, qui, du coup, pour le bâtiment dans lequel nous sommes implantés, a été construit en 1863. Donc une histoire voilà, qui remonte beaucoup. Et cette entreprise, en fait, a perduré jusqu'en 1981, où le bâtiment, donc la filature de coton mode bossu, a fermé ses portes. En 82, l'entreprise mode bossu, qui avait plusieurs usines, a elle aussi fermé ses portes, frappée de plein fouet par la désindustrialisation. Et peu de temps après, quelques années après, on a commencé à réfléchir à l'implantation d'un centre d'archives, un centre des archives du monde du travail. Pourquoi ? Parce que justement, on avait des entreprises qui fermaient les unes après les autres, frappées par cette crise, cette dure crise, et du coup, il fallait pouvoir conserver les traces de ces entreprises. Quand une entreprise ferme, les archives, c'est souvent des choses qui peuvent finir détruites ou en déshérence. Donc, on a pensé, sous le gouvernement de Pierre Mauroy, à installer 5 centres d'archives. À l'origine, il devait y avoir 5 centres d'archives interrégionaux. Et le premier a été installé à Roubaix. Pourquoi Roubaix ? Parce que le Nord-Pas-de-Calais, c'était une région très durement touchée par la crise. Et donc, où on avait un très grand nombre d'usines qui fermaient les unes après les autres, il fallait pouvoir récupérer leurs archives. Donc, à l'origine, il devait y avoir 5 centres. Celui-ci, les travaux ont commencé en 1989 jusqu'en 1993. Donc, 4 ans de travaux, environ 150 millions de francs d'investissement pour réhabiliter ce bâtiment en centre d'archives. Donc, cette ancienne usine en centre d'archives. Et au final, il n'y aura pas eu d'autres centres des Archives du Monde du Travail, ce sera le seul. C'est pour ça qu'il est devenu, il a eu une compétence nationale à partir de 2007, service à compétence nationale.
Donc on peut peut-être rappeler le contexte de cette usine du temps où elle était filature. Il y avait aussi tout un système pour conditionner les matières premières. Je pense à la condition publique qui est devenue aussi un lieu patrimonial d'une certaine manière et qu'on peut visiter à certains moments, qui sert aussi d'écrin, on va dire, à des entreprises modernes et puis à des expositions, etc. Et il y a aussi un musée du textile.
Vous parlez peut-être de la manufacture, oui. À Roubaix. Oui, bien sûr, qui présente plusieurs machines, d'anciennes machines, ici plutôt de tissage.
Mmh. Et donc, on a bien gardé, préservé d'une certaine manière la mémoire, mais pas beaucoup le travail, c'est ça?
En tout cas, pour notre bâtiment, on a sauvegardé l'architecture. Cette architecture qui est quand même assez particulière, puisqu'on parle souvent de notre bâtiment comme étant un château de l'industrie. Cette ancienne usine était appelée château de l'industrie puisqu'elle présente des caractéristiques assez particulières, des créneaux, des grandes tours, notamment l'ancienne tour cheminée qui a été sauvegardée, et ça marque notre façade ouest, on ne peut pas passer à côté. Une fois qu'on va à Roubaix, c'est quelque chose qui marque l'esprit, et même quand on y travaille tous les jours, on a envie de la voir et de sortir du bâtiment assez souvent pour pouvoir en profiter. Mais on a aussi gardé les traces du travail, étant donné qu'on conserve les archives. Et quelles archives on conserve au centre, aux Archives nationales du monde du travail? On conserve des archives de tous les acteurs de la vie économique et professionnelle. Ça peut être donc des entreprises, des syndicats, des associations. Et on a plus de 50 km d'archives linéaires dans notre bâtiment. C'est-à-dire que si vous mettez nos boîtes d'archives les unes à côté des autres, vous allez atteindre 50 km de long.
Donc cette mission nationale de ce lieu, est-ce qu'on peut dire aussi que l'étendue, son registre de conservation s'étend bien au-delà des Hauts-de-France ?
Exactement, puisqu'à l'origine, c'était un centre qui avait une vocation interrégionale, vocation du coup régionale, mais à partir de 2007, et même un petit peu avant, on a commencé à prendre des archives d'entreprises de toute la France, et même aussi à l'international. Donc, c'est vraiment cette vocation internationale qui fait que, bien sûr, vous allez trouver des entreprises qui ne sont pas seulement situées à Roubaix ou dans le Nord. On a, par exemple, pour vous citer les types d'entreprises ou d'archives qu'on a, on a les archives, les fonds de la banque Rothschild et aussi les fonds de l'association Emmaüs International. Donc voilà, on peut vraiment avoir des types d'archives très différents.
Peut-être qu'on peut rappeler à l'époque du fonctionnement des filatures, il n'y avait pas que celle-là, hein, j'imagine, il y en avait une à Lille aussi, à d'autres endroits. Hein. Et donc il y avait tout un système pour faire venir les travailleurs de loin parfois. Moi, j'ai connu ça, des gens qui venaient de la région lensoise, qui venaient en bus au petit matin vers 5 heures, où elles étaient, on va dire, entre guillemets, ramassées pour être amenées sur place pour travailler jusqu'à un autre horaire où elles étaient remplacées par d'autres qui arrivaient également en bus.
Exactement, et là on parle du coup des reines du fil, et c'est très bien, ça entre en résonance avec notre programmation pour les 30 ans, puisque notre spectacle de clôture, le 14 décembre, donc je vous invite toutes et tous à y participer, c'est sur entrée libre bien sûr, et c'est gratuit, et ce spectacle qui s'appelle Les reines du fil va parler justement de ces femmes que vous venez de citer, des femmes qui faisaient chaque jour le trajet entre leur lieu d'habitation et leur travail, c'est-à-dire qu'elles venaient travailler notamment pour ces femmes-là à la Lainière, l'usine
voilà,
de la Lainière à Roubaix.
15-16 ans, hein, parfois.
Exactement. Donc, ils pouvaient travailler à partir de très jeunes et qui devaient faire, donc c'est très compliqué, c'était des trajets très longs, matin et soir, justement, pour pouvoir aller travailler. Et du coup, notre spectacle de clôture se basera sur des témoignages de ces reines du fil, ces femmes qui travaillaient dans l'industrie textile alors qu'elles habitaient dans le bassin minier.
Ce spectacle, il est produit et réalisé par qui ?
Il est produit et réalisé par la compagnie BVZK, oui. Qui justement, travaille avec eux, qui vont la produire chez nous.
Voilà, donc un moment fort qui permet aussi de réfléchir après une visite. Je pense que c'est mieux de voir le spectacle après avoir une visite du lieu.
Bien sûr, bien que la Lainière de Roubaix, c'est une autre usine justement qui a perduré un peu plus longtemps que la filature de coton mode bossu. C'est une autre usine, mais notre lieu rentre vraiment en résonance avec ça, avec cet univers textile, le bâtiment dans lequel nous sommes, les Archives nationales du monde du travail. Et du coup, oui, il y a des visites guidées qui sont organisées. D'ailleurs, chaque premier vendredi du mois, il y a une visite guidée du bâtiment et du métier d'archiviste, comment on travaille aux Archives nationales du monde du travail. Et dernièrement, pour la programmation, on avait créé une visite spéciale, une visite guidée spéciale, la visite architecture et histoire du château d'industrie mode bossu, durant laquelle on entrait justement dans cette histoire, on revivait peut-être un petit peu ce que vivaient les ouvriers et les ouvrières, on essayait de s'imaginer toutes les machines, à travers on présentait des photos, on présentait le moment où la cheminée crachait de la fumée en continu, avec une machine à vapeur qui alimentait toute l'usine. On avait eu jusqu'à 600 ouvriers dans l'usine mode bossu, c'était une usine gigantesque.
Donc pour Florian, qui n'a pas connu cette époque, j'imagine qu'il piave d'impatience de questionner l'histoire.
Ah, bah oui, évidemment, parce que c'est vrai que, en soi, le lieu et tout ce qu'il induit aussi, comme vous avez parlé de ce sujet-là tout à l'heure, et aussi, j'ai cru comprendre que, au-delà donc de ces femmes qui faisaient ces longs trajets, vous prenez bien ça un peu l'autre côté du miroir en parlant cette fois des mottes avec une autre exposition qui a lieu aussi à l'usine, c'est bien ça ?
Exactement. On a une exposition photographique qui est présentée sur le parvis des ANMT, donc juste devant. Ici aussi, entrée libre, bien sûr, et donc dans les périodes d'ouverture, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 9h à 17h, et le samedi et dimanche de 13h à 18h. Et donc cette exposition, qui s'appelle justement les mottes au parvis, on a voulu en fait un petit peu redonner une partie du bâtiment aux mottes, à ceux qui étaient les propriétaires de l'usine à l'époque. Et on a présenté des photographies qui sont tirées en fait d'un fond photographique assez impressionnant je crois, de mémoire, plus de 15 000 photographies qui étaient imprimées sur plaques de verre. Et on en a sélectionné une partie. Ce fonds-là est conservé par les amis du fonds photographique Mode Bossu. Et on en a présenté une sélection pour montrer un petit peu comment vivaient les mottes à l'époque, leurs voyages, leurs usines. On a des photographies où on les voit sur des chantiers d'usines qui sont en train de sortir de terre. On a aussi des photographies où on voit bien que l'agriculture et l'usine, le milieu industriel, pouvaient parfois cohabiter. On a des photos où on a des moutons juste à côté d'une usine, donc justement dans des territoires comme le nôtre, à Roubaix ou à Lers également. Et donc voilà, c'est tout ce type de photos que vous pouvez trouver avec toujours une petite légende en dessous, une sélection d'environ une dizaine, un peu plus d'une dizaine de photos.
Et d'ailleurs, j'ai vu que aussi, au-delà de ces photos qui sont justement présentées dans l'exposition, il y a une sorte de réinvention, peut-être, si je peux, une théorie entre guillemets, puisque il y a un concours photo, c'est ça qui a été réalisé à l'usine et qui va être présenté. Ça, le gagnant va être nommé au cours de la soirée anniversaire, c'est bien ça. Oui. Du coup, pour un peu aussi montrer une vue nouvelle, récente de l'usine.
Exactement, vous parlez du concours Réinventons le château que nous avons lancé et qui s'est terminé il y a peu, puisqu'il s'est terminé lundi. Et en fait, dans le cadre de ce concours, on proposait aux gens, à notre public, de réinventer, revisiter l'image de notre bâtiment. Donc un bâtiment qui est ancré sur le territoire roubaisien depuis des années et des années, donc depuis 1863 si on veut être exact pour ce bâtiment-là, et lui donner une nouvelle vie, une nouvelle envergure. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Là, on vient de le terminer et on a plus de 40 participations, justement, pour ce concours-là. Donc, on a des participations. On l'ouvrait à tous les types de créations, c'est-à-dire dessin, photographie, peinture, création textile. Et les gens ont vraiment joué le jeu et on était très contents de voir ça aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a en France d'autres sites de ce type-là, hein, nationaux, on va dire, qui ont des missions un peu comparables ?
Alors, en fait, les Archives nationales du monde du travail, c'est un service à compétence nationale. Et des services à compétence nationale, il y en a trois. Justement, on a les Archives nationales tout court, donc qui sont situées à Paris, intramuros et à Pierrefitte-sur-Seine, et les Archives nationales du monde du travail, nous, situées à Roubaix, et les archives nationales d'outre-mer, les ANOM, qui sont situées, eux, à Aix-en-Provence.
Qu'est-ce qu'on définit comme champ, hein, comme étant le travail ? Il y a beaucoup de formes de travail. On peut même dire que les agriculteurs sont des travailleurs.
Enfin,
même les professeurs sont aussi des travailleurs. Qu'est-ce que vous avez comme spécificité ou comment vous limitez votre champ pour être peut-être plus efficace et maîtriser ce qu'on peut voir dans vos lieux ?
Eh bien, alors ça, c'est des questions très, très intéressantes. Bien sûr, quelqu'un qui serait archiviste pourrait vous répondre encore mieux que moi, qui suis chargé de valorisation, mais je vais tâcher d'y répondre, justement. Donc, déjà, dans un premier temps, pour nous, comme on est un service à compétence nationale, il faut que ce soit une entreprise qui soit à l'échelle nationale. Donc, maintenant, on a arrêté de prendre des entreprises vraiment du Nord en particulier, pour justement parce qu'on a une grande partie de nos fonds qui est basée là-dessus, sur des entreprises plutôt du Nord. Justement, puisque jusqu'en 2007, comme je le disais, on était à vocation plutôt régionale. Donc nous, on est ouvert. Le monde du travail, justement, même ce terme a été inventé pour pouvoir englober tout ça. C'est-à-dire pour pouvoir englober depuis les entreprises, les syndicats, les associations, toutes les personnes et toutes les entreprises en fait, qui œuvrent dans le monde du travail. Donc comme vous l'avez dit, très bien dit, les agriculteurs qui sont des travailleurs peuvent avoir leur place là-dedans. Et on a par exemple les fonds de la FNSEA, donc notamment beaucoup de photographies du monde du travail agricole. On a également des fonds sur le travail, par exemple, ferroviaire. On a des fonds sur le travail maritime. Tous les acteurs du monde du travail peuvent trouver leur place. En fait, on a un comité qui se réunit chaque mois aux Archives nationales du monde du travail, qui est composé d'archivistes, bien sûr, et de conservateurs du patrimoine, qui vont du coup choisir, voir les propositions qu'on leur a données de telle entreprise, par exemple, qui a fermé, qui a ses archives, et décider si ça rentre dans notre champ de considération. Est-ce qu'on va pouvoir le prendre chez nous ?
Alors c'est vrai que dans notre région, il y a eu beaucoup d'entreprises industrielles hein, qui ont fonctionné, qui ont beaucoup pollué aussi. Bon, ça avait des avantages, des inconvénients d'implanter des entreprises. On pense bien sûr aussi à l'exploitation du charbon avec les houillères hein, du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, il y a ce site qui est donc à Le Ward, qui présente aussi l'industrie minière de cette époque, son historique. Comment vous faites la jonction ?
Eh bien, ça peut arriver, justement. Donc, il y a certaines archives, par exemple, dernièrement, qui sont revenues chez nous, donc des archives qui étaient auparavant dans le service d'archives de CHM Le Ward et qui sont revenues chez nous. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est assez intéressant aussi. C'est-à-dire que les fonds d'archives qu'on a peuvent parfois transiter d'un service à un autre, s'ils ne rentrent plus en considération dans ce qu'on appelle le plan, en fait, le PSCE du lieu. Donc nous, par exemple, on a certaines archives qui vont pouvoir repartir dans des archives départementales, des archives parfois municipales, justement, si nous, on a l'impression qu'on ne pourra plus les gérer comme il faut et qu'elles auront plus leur place dans tel service d'archives. Donc, par exemple, avec le Ward, ça peut être des choses comme ça. De mémoire, en tout cas, moi, je n'ai pas travaillé à des événements particuliers avec le Ward, mais ça peut très bien arriver, bien sûr.
Et moi, j'ai peut-être une question assez, peut-être un peu simpliste, si jamais on peut, enfin, en tout cas, on peut se le demander, mais comment elle s'opère, justement, cette récupération des archives ? Est-ce qu'à chaque fois, c'est des dons ou c'est quand l'entreprise ferme, vous allez directement récupérer de vous-même ? Comment ça se passe, en fait ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Justement, c'est souvent ce qu'on appelle la collecte, parce qu'un centre d'archives, voilà, ses missions, c'est de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives. Donc, ça commence, comme vous l'avez très bien dit, par la collecte. Il va falloir récupérer ces archives-là. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit l'entreprise ferme, et les archives sont menacées d'être en déshérence, menacées d'être détruites, et du coup, nous ou un autre service d'archives va aller sur place pour pouvoir récupérer les archives, voir ce qui peut être récupéré justement et pouvoir le ramener dans le centre d'archives. Si par contre une entreprise est encore en fonctionnement ou ferme mais va faire elle-même l'effort de donner ses archives, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire soit un don, soit un dépôt. Nous, notre particularité aux Archives nationales du monde du travail, c'est qu'on a 95% d'archives privées. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui oblige les entreprises à donner leurs archives. Donc, du coup, on est toujours un petit peu là-dedans, c'est-à-dire soit on va récupérer des archives, soit les personnes vont, les producteurs, l'entreprise, va nous la déposer. La déposer, c'est-à-dire qu'ils gardent quand même la main sur les archives, mais elles sont conservées chez nous, et elles peuvent être communiquées si le producteur l'autorise. Pour les dons, c'est plus simple puisqu'on garde les archives chez nous et on peut les donner sans avoir besoin de signer quoi que ce soit.
Voilà donc Rémi Six, on peut revenir sur ces 30 ans des archives, du Centre des archives du monde du travail, de ces cérémonies, de ces fêtes, et puis aussi se projeter sur 2024 puisque vous avez des moments aussi prévus.
Donc oui, d'abord donc la fête des 30 ans, étant donné que comme le centre a ouvert en 1993, cette année en 2023, c'est notre anniversaire, nos 30 ans. Donc pour l'occasion, on a fait plusieurs choses, on l'a dit, une exposition qui est encore visible sur le parvis des ANMT, un concours qui a été lancé, on a fait également des escape games qui s'appellent Dans les entrailles de l'usine monstre. L'usine monstre, c'était le surnom donné à l'ancienne usine, l'ancienne filature de coton mode bossu, celle qui en fait a brûlé en 1845 et qui était juste en face de notre bâtiment actuel. Cette usine monstre ressemblait vraiment à la nôtre, elle faisait 5 étages avec des cheminées qui crachaient de la fumée en continu. Et donc on a fait des escape games comme ça dans notre salle de lecture. On a aussi organisé des ateliers broderie et tissage avec une artiste, l'artiste Anaïs Jonas, qui du coup permettait aux gens de reproduire des petits des morceaux de notre architecture, des morceaux du bâtiment, soit en broderie, soit en tissage, donc qui ont attiré beaucoup de monde également. Et nous avons fait les visites guidées dont je parlais tout à l'heure, architecture et histoire du château d'industrie mode bossu. Nous avons eu aussi des journées d'études en partenariat avec l'association Le Non-Lieu de Roubaix, des journées d'études qui s'appelaient les rencontres cheminées, qu'on a accueillies et on a participé à l'organisation aux Archives nationales du monde du travail. Et désormais, on va organiser la soirée anniversaire du mercredi 29 novembre, qui est le prochain événement important à partir de 18h aux Archives nationales du monde du travail.
On peut parler peut-être de cette exposition « Travailler en temps de guerre » qui va se prolonger jusqu'en mai 2024.
Bien sûr, « Travailler en temps de guerre », donc du coup, qui peut entrer un petit peu dans les 30 ans, mais qui s'est lancé avant, puisque la programmation 30 ans a commencé en septembre et se terminera en décembre. Quant à « Travailler en temps de guerre », cette exposition s'est installée, on l'a installée chez nous en mai, et elle est visible jusqu'en mai 2024 également. Donc c'est la première fois en fait que le sujet du travail en temps de guerre est exploré dans une exposition de façon globale et pluridisciplinaire. Et du coup, on s'appuie sur des archives d'entreprises ou de personnes privées qui étaient peu révélées jusqu'ici au grand public. Donc en fait, c'est une exposition qui est divisée en trois parties. Vous pouvez y trouver des objets, des documents d'archives et des explications.
Voilà, donc Rémi Sixe, on va rappeler le lieu, l'adresse, peut-être le site web.
Oui, bien sûr. Donc les Archives nationales du monde du travail, qui sont situées au 70 boulevard du Général Leclerc à Roubaix. Donc en fait, c'est assez simple d'accès. Vous descendez à l'arrêt Eurotéléport de la ligne 2 du métro. Et ensuite, il faut longer le boulevard pour trouver notre entrée, qui est au rond-point de l'Europe. C'est encore plus facile de trouver avec ça, rond-point de l'Europe à Roubaix.
Merci beaucoup et bon anniversaire des 30 ans.
Merci beaucoup.